Pierre Grosset, donc PDG de Juratry. Juratry existe depuis 20 ans, est en scope depuis 2007 à la suite du désengagement de l'un des partenaires historiques de Juratry. Et depuis 5 ans, alors sur le métier du tri sélectif, initialement, depuis 5 ans, vous êtes lancé dans le démantèlement des déchets électriques et électroniques. Vous êtes parti il y a 5 ans de 0 tonne traitée. Par an, vous êtes à 7000 aujourd'hui et vous venez de finaliser l'acquisition d'une friche industrielle pour passer de l'artisanat à l'industrie, la friche que vous connaissez peut-être, la friche Smoby. Dans ce passage de l'artisanat à l'industrie, est-ce que vous continuez et comment, sinon vous ne seriez pas là, je pense, comment vous continuez à porter des valeurs et des actions spécifiques de l'économie sociale et solidaire? On se posait la question de la définition ce matin. En quoi, malgré, ou pas malgré, mais en conjuguant ce passage à une autre échelle, vous continuez de vous inscrire pleinement dans le champ de l'économie sociale et solidaire, à la différence de ce que ferait une entreprise qui serait, je le disais, sous la pression de ses actionnaires en termes de travail d'insertion, en termes de salaire, en termes de participation? Comment est-ce que ce... joue cet effet de changement d'échelle et de garder ses valeurs, j'allais dire.
Oui, bonjour. C'est une drôle de question.
J'ai un truc cet après-midi, je ne sais pas.
Je crois que simplement pour revenir sur ce parcours de Juratry, donc comme vous avez compris, qui est en scope SA, et je suis fier d'être un PDG, puisque je suis un PDG élu par mes salariés. C'est le principe... de la SCOP, effectivement une gouvernance partagée. Et le développement qu'on a eu, ben, c'est tout simplement un développement comme une entreprise classique, c'est un développement économique. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est dit que si on voulait effectivement répondre à notre premier objet social qui est de créer de l'emploi pour des publics en difficulté, on est conventionné en tant qu'entreprise d'insertion, eh bien, pour pouvoir créer de l'emploi, ben, il fallait faire du développement économique. Et pour pouvoir faire du développement économique, à un moment, il faut savoir passer du stade artisanal au stade professionnel et aller se bagarrer dans la cour des grands. Quand on travaille sur les déchets, les grands, c'est les grands groupes, hein, Cita, Veolia, etc. Et donc, pour pouvoir lutter contre ces... et se positionner, pas forcément lutter, parce qu'on recherche aussi du partenariat, eh bien, il faut savoir, à un moment, passer à la vitesse supérieure et faire des choix. Et pour nous, en SCOP, le choix a été de commencer par investir dans des nouvelles activités, hein, puisqu'autrefois, on travaille toujours dans le tri sélectif des déchets ménagers, était de se mettre où on est sous-traitant, était de se mettre sur une activité où on n'allait plus être sous-traitant, mais on allait être donneur d'ordre quelque part, hein, puisque c'est nous qui faisons sous-traiter certains voyages maintenant à Cita ou à d'autres grands groupes, quoi. Voilà. Et donc pour ça, on s'est positionné sur le D3E, et je crois que c'est un des rôles souvent de l'économie sociale, c'est souvent d'être pionnier et de réfléchir à des idées en se disant, non pas combien on va gagner, mais surtout combien d'emplois on va pouvoir créer. Et c'est là je crois, la grande différence de notre développement, qui a été de dire comment on peut investir dans des locaux, dans un matériel, une chaîne de production, en gardant l'esprit qui est le nôtre, qui est de se dire... on se doit de créer de l'emploi pour des gens en difficulté et de l'emploi pour de l'emploi aussi entre guillemets classique, puisque Juratry, 135 salariés, on est conventionné pour 62 postes en entreprise d'insertion. Tous les autres postes, c'est des postes en CDI. Et on s'est fixé comme règle qu'à chaque fois qu'on crée un poste en insertion, on se devait de créer un poste en CDI. Puisque l'objectif, il est aussi à un moment d'être un acteur local sur un territoire local. Un développement local. Et donc là-dessus, ben voilà, on a été regarder comment on pouvait se développer. Il y avait du terrain, il y avait des bâtiments, et on a été commencer à négocier avec toutes les collectivités, à la fois la collectivité locale pour pouvoir se dire comment on fait pour acquérir, puisqu'on a on a acheté, on nous a rien donné, hein, on a acheté les, c'était une friche, mais on l'a acheté, et puis aussi les autres collectivités pour voir comment ils pouvaient nous aider parfois à financer, mais non pas parce qu'on faisait, on était en ESS, mais aussi parce que tout simplement on était une entreprise, et c'est là que paradoxalement on a vu certaines collectivités qui finançaient plus l'entreprise classique que l'entreprise dite entre guillemets d'insertion. Voilà. Voilà, je dirais, c'est tout à fait, pour moi, c'est tout à fait banal, mais Je crois que, de toute façon, si on veut continuer à exister et pouvoir être reconnu comme acteur économique, on est obligatoirement condamné à se développer. On ne peut pas. Parce que, tout simplement, on est dans un système économique avec des process qui changent, avec des activités qui doivent changer. Et voilà.
À propos de levier, puisque c'est aussi le thème central de la journée, d'essayer d'identifier des choses qui permettraient de faciliter ce changement d'échelle, est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez pointer plus particulièrement ? On parlait, quand on préparait cette table ronde, de financement de l'insertion, que vous estimez pas être au niveau qu'il devrait. D'aide au financement pour le développement d'une façon générale, on peut discuter de la forme, et puis du travail ou de l'agencement que peuvent faire les collectivités territoriales autour des différents acteurs économiques.
Alors, je crois que le premier point qui me paraît fondamental, c'est que tout seul, on ne peut absolument rien faire. Donc, obligatoirement, on est un acteur de développement local et un acteur de développement territorial. Et pour pouvoir être acteur, il faut être reconnu. Et c'est vrai que malgré nos 20 ans d'existence, on a mis longtemps à être reconnu. Et là, on a été reconnu et on a pu faire ce partenariat avec les collectivités locales parce que tout d'un coup, sur un territoire de Lons-le-Saunier, donc préfecture du Jura, 18 000 habitants, il y avait une friche qui s'appelait Smoby, 30 000 mètres carrés, qui était effectivement qui allait tomber à l'abandon si ce n'était pas repris. Et là, tout d'un coup, d'acteurs de l'insertion ou de l'acteur de l'économie sociale, on est devenu un véritable acteur économique en disant mais comme nous, on ne va pas racheter ça tout seul, il faut que ce soit la collectivité qui rachète la friche et qu'on trouve d'autres entreprises pour racheter les autres bâtiments. On n'allait pas acheter 30 000 mètres carrés, quoi. Donc, eh bien, quelque part, on est devenu acteur du développement. C'est nous qui avons incité. Donc, déjà, ce partenariat a été très, très fort avec la collectivité. La deuxième chose, c'est la reconnaissance. C'est vrai que vis-à-vis des partenaires économiques, insertion, déjà, c'est pas génial. Même si, par contre, Scope, voilà, c'est encore étrange. Par contre, tout d'un coup, vous êtes l'acteur qui se développe, qui investit, qui reprend une friche, et là, toutes les portes se sont ouvertes. Quand je dis les portes, pour moi, qui sont les très importantes, c'est les portes des chambres de métiers et des chambres de commerce. Là, tout d'un coup, ils se sont dit, ben oui, ce sont des acteurs comme les autres, point. Ils n'ont pas le même type de gouvernance, ils n'ont pas le même type de fonctionnement, peut-être, mais c'est des acteurs économiques. Et là, je crois que c'est super intéressant, parce que c'est à ce moment-là où tout d'un coup il peut y avoir des leviers aussi pour les autres entreprises en disant vous avez choisi tel type de fonctionnement, nous on a choisi tel type, les deux ne sont pas en opposition, ils sont complémentaires et surtout ça permet d'ouvrir des portes à d'autres qui se disent ça peut pas marcher une SCOPE, c'est vrai que c'est con. On dit toujours tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Quand on va prendre des décisions en SCOPE, d'un côté ça va vite parce qu'il suffit de réunir son conseil d'administration, mais de l'autre côté il faut le convaincre, ce qui est beaucoup plus difficile. Donc ça oblige à la transparence, à la traçabilité, et ça prend du temps parce que la traçabilité, il faut qu'elle soit compréhensible aussi.
Donc vous décrivez un espèce de phénomène de taille critique à partir duquel vous devenez un acteur qui quitte la réparation, l'insertion, etc. Le paradoxe, c'est que pour sortir de ça, ça a été à vous de vous mobiliser, c'est-à-dire pour atteindre cette taille critique. Est-ce qu'il y aurait des leviers ? Quels sont les leviers qui vous semblent à vous actionner pour permettre à d'autres entreprises d'accéder plus facilement ou de façon plus fléchée, j'en sais rien, à cette taille critique qui en fait un acteur du territoire comme un autre ?
Alors je disais tout seul, on ne peut rien. Le premier levier, ce sont ce que j'appelle moi tous les réseaux. C'est-à-dire on n'est pas tout seul, on adhère à des réseaux, on adhère à des SCOPE, on adhère au Comité national des entreprises d'insertion, on adhère au mouvement de l'entrepreneuriat social, pour se dire qu'on représente à un certain nombre de personnes, un certain nombre de structures, une certaine force. Donc déjà, ça c'est important, c'est d'aller chercher du partenariat. Et la deuxième, c'est effectivement d'aller chercher les partenaires, et en l'occurrence les collectivités qui nous ont aidés à financer, et les banques, et l'économie et les finances solidaires, c'est-à-dire que c'est ces trois acteurs-là qui nous ont permis de nous développer ensemble. C'est-à-dire que si on va voir simplement la banque, c'est limite. Si on va voir la finance solidaire, ben, c'est un levier. Puis si on a les collectivités, ben, c'est pas, elles ne balancent pas de l'argent comme ça à fond perdu. Il faut que le projet soit solide. Donc là aussi, pour nous, les trois acteurs sont importants. Et comme à chaque fois, vous mettez plein de monde autour d'une table, plein de monde là, eh bien, vous pouvez vous développer. Parce que ben, y a une connaissance, il y a des partages qui se font avec d'autres. Et puis, le dernier point, c'est le langage de la preuve, c'est que ça marche. C'est-à-dire que demain, vous pouvez venir visiter, vous allez voir, voilà, y a une chaîne de tri. C'est quand même aujourd'hui pour nous 2 millions d'investissements hein, en l'espace de 3 ans, 500 000 encore cette année. Ça marche. Le langage de la preuve, ça marche tout simplement. Et puis, l'insertion, c'est la cerise sur le gâteau. Parce que c'est notre raison d'être, quoi. Hein, voilà. Si on ne fait pas d'insertion, pour certains, on arrête, quoi.
Sur l'insertion, je reviens sur un point. Son financement ne vous semble pas...
Alors, c'est un autre débat. Effectivement, le financement des entreprises d'insertion, comme en général les structures de l'IAE, n'est pas au juste prix, hein, puisque en tant qu'entreprise d'insertion, l'aide de l'État que l'on a, et je pense que beaucoup d'élus le savent, est la même depuis 2001. Depuis 2001, que sur l'entreprise d'insertion. On n'est pas sur des contrats aidés, mais on est sur une aide au poste qui est complètement différente. Aujourd'hui, pour Juratry, pour situer, on a 6,8 millions de chiffre d'affaires et on a 700 000 euros d'aides diverses de l'État et heureusement du Conseil régional qui soutient dans notre région les entreprises d'insertion. Ce qui n'est pas le cas partout. Il y en a qui ont juste de l'aide de l'État. Donc, le financement de l'aide pour une mission sociale, je dis bien, on a une mission sociale qui est, eh bien, n'est pas aujourd'hui suffisant. Bon, et à falloir, il y a aujourd'hui le CNIAE qui est en train de se travailler là-dessus et on compte sur l'appui de toutes les collectivités qui siègent au CNIAE, l'ARF, l'ADF, les maires et les députés, etc., pour pouvoir appuyer la demande de revalorisation du socle pour qu'on puisse faire un travail et que aujourd'hui on assiste pour les entreprises d'insertion, je dirais hélas, à des entreprises d'insertion qui ferment ou qui ne mènent plus leur mission d'insertion, ce qui est beaucoup plus grave.
Sur les financements, hein, sur financement d'investissement, on saura le 2 juillet les conditions dans lesquelles la BPI va organiser, mettre à disposition, si je peux dire, ces 500 millions d'euros pour flécher vers l'économie sociale et solidaire. On sait aussi que d'autres fonds, le fonds d'investissement d'avenir, tout l'argent qui était a priori fléché vers l'économie sociale et solidaire n'ont pas été consommés. Ça pose la question de la taille critique, c'est-à-dire à partir de quel moment on est assez armé, assez outillé pour aller répondre aux différentes conditions, aux dossiers d'éligibilité, etc., pour aller chercher ces fonds. Comment ça s'est passé chez vous? Est-ce que ça a été, là aussi, c'est des ressources, des postes, des choses à financer? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a mieux à faire?
C'est une réelle préoccupation, plus qu'un problème. C'est effectivement la recherche du financement, ça prend beaucoup de temps. On a toujours l'impression qu'il faut toujours justifié de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on doit faire. C'est vrai que, bon, par exemple, sur notre projet, on nous a dit « Oh, vous allez pouvoir aller au PIA ». C'est très, très bien. On a été marqué, ouais, première entreprise de Franche-Comté à faire du PIA, c'était très bien. Sauf que l'argent, on l'a eu un an après, quoi. Voilà. Et que les voilà. Ça, c'est un réel problème. Le deuxième problème, c'est que quand, malgré les aides des collectivités, quand vous faites des investissements, ben, il faut réaliser les investissements. Donc, il faut avoir de la trésorerie, hein, à un moment pour pouvoir arriver à convaincre les banques que vous allez payer telle machine ou telle autre et qu'après, vous allez avoir l'aide. Ça, c'est un problème. Et puis, le point qui est important, et ça, nous, on est très attentif à ce que va être la BPI, qui ne refasse pas une usine à gaz pour avoir de l'argent. Parce que si on doit passer des dossiers, qui est vraiment une ligne commune, c'est vrai qu'on a bénéficié, on est très content de la finance solidaire, mais quand on voit que pour le PIA, il a fallu refaire tous les dossiers, toutes les photocopies, tous les justificatifs, quand vous achetez quelque chose, que vous faites 10 fois les photocopies, les machins. Enfin, je pense que quand on est une structure assez importante, on a la chance d'avoir un peu d'administratif. On n'en met pas trop parce que c'est là où on fait la différence avec justement sur nos prix avec les concurrents classiques. C'est qu'à la fois, en scope, on n'a pas à redonner des dividendes. Mais d'un autre côté, on a des frais de structure beaucoup moins élevés parce que d'abord, on a des échelles de salaire beaucoup, beaucoup moins élevées. Hein, dans la scope juraterie, puisque c'est décidé par les associés, c'est de, les salaires sont de 1 à 4 maximum. Le pouvoir on essaye de pas trop mettre d'administratif, mais c'est vrai qu'on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur des dossiers. Et là, vraiment, je serai la semaine prochaine à la réunion. J'espère vraiment entendre se dire, on va simplifier les, qu'il y ait des contrôles. On est tout à fait d'accord, contrôle, évaluation, mais qu'on simplifie les choses, ou alors qu'il y ait vraiment des gens qui soient à côté. Dédié à ça pour nous aider. Je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui avec France Active, notamment Franche-Comté Active, où effectivement, là, on a un soutien important, mais qu'on soit aidé, parce que les petites structures, il faut pouvoir les aider à investir, quoi.
Donc, je retiendrai trois choses hein, de ce que vous avez dit à propos de cet accès à l'investissement pour nécessaire pour changer d'échelle, donc des procédures lisibles, pas chronophages, ou alors, et des postes ou des processus d'accompagnement, d'aide à celle d'instruction, de mutualisation de ces processus pour offrir aux banques, etc., qui demandent des garanties relativement légitimes parfois, souvent peut-être des éléments. Et enfin, vous avez dit des dispositifs de trésorerie, c'est aussi quelque chose, ça c'est quoi, c'est, on voit avec sa banque ou il faut imaginer d'autres
des fois,
processus.
C'est vrai que c'est toujours peu. Quand vous avez une trésorerie solide, c'est comme partout ailleurs, les banques c'est facile à les avoir. Quand vous avez une trésorerie un peu plus difficile, c'est plus compliqué à pouvoir les mobiliser. Et puis, ça y est, j'ai perdu. Il y a un point qui me paraît aussi important dans la mobilisation des crédits, c'est faire en sorte que ces crédits arrivent aussi vite.
Dans les temps.
Vite dans les temps, quoi. Hein, voilà, ça, c'est qu'on n'ait pas à attendre trop de temps. On ne parle pas, et je pense que les élus le savent, on ne parle pas des fonds européens. Parce que, je veux dire, sur notre financement, on a eu du FEDER, je ne sais pas si un jour... Dans combien de temps alors on va le toucher, quoi. Donc là, ça pose quand même un...
Il paraît que c'est pas tant l'Europe que l'État qui...
J'en sais rien. Moi, je suis pas là pour faire le procès de personne. Je dis simplement que on nous promet une aide. On l'a renvoyée. Maintenant, ça met un peu de temps. Voilà. Donc ça, c'est un point important pour le développement des structures de l'ESS. Et puis, surtout, maintenant qu'on fasse confiance, et je dirais le point, il y a des risques d'investir dans l'ESS, mais il n'y en a pas plus que d'investir dans l'entreprise classique. Il y en a moins, en ce sens qu'au moins on sait que l'argent n'ira pas dans la poche d'un actionnaire, etc. Par contre, quand vous avez besoin d'investir pour répondre à des marchés, si vous investissez pas, vous n'avez pas les marchés. Mais quand on vous demande un prévisionnel, que vous ne savez pas si vous allez avoir le marché ou pas, c'est difficile. Après, c'est que des chiffres. Vous pouvez dire, OK, j'aurai 3000 tonnes. On espère avoir 3000 tonnes, mais on n'en sait rien. Par contre, ce qu'on sait, c'est que si on n'a pas investi, on n'aura pas le marché. Donc, on est obligé d'investir. Mais comme on est en concurrence logique et classique, et c'est normal, c'est pas parce qu'on a investi qu'on aura le marché. Donc, il y a un risque quand même à prendre. Il y a un risque. Il y a un risque, comme pour toute entreprise classique, sauf que nous, voilà, les entreprises de l'ESS, il y a un risque. C'est-à-dire, là, on répond à des marchés, il faut qu'on investisse. On nous demande, mais vous allez faire combien de tonnes vous allez... Alors, en théorie, on dit, on va faire tant de tonnes, on va créer combien d'emplois. Oh, je ne sais pas, si ça marche bien, 10, mais j'en sais. Je sais que si je n'investis pas, je n'aurai pas le marché, puis c'est tout. Après, je ne sais pas combien on va avoir, et puis ça va monter en charge, voilà. Il y a un risque et je crois que c'est ça qu'on attend, nous, aujourd'hui, qu'il faudrait encourager au niveau de l'entrepreneuriat social. C'est la prise de risque parce qu'on sait que là, au moins, ceux qui ont prêté ou ceux qui ont avancé l'argent, eh bien, savent que cet argent ne va pas partir dans la poche d'un actionnaire. Ou voilà. Je crois que c'est ça qui est important.